BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. On est ensemble pendant une demi-heure, comme tous les week-ends, pour faire le tour de ce qui va vous rendre plus heureux au boulot. Au programme, avec Benoît Serre, d'abord le vice-président de l'Association Nationale des DRH, on va revenir sur le projet de pacte de la vie au travail et tout ce qu'il y a encore à faire pour ne pas passer à côté de la promesse d'un projet de fond. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission. On répond à vos questions, celles que vous nous adressez avec nos avocats en droit du travail et avec vous, Jeanne. Bonjour.
Bonjour Erwan. Aujourd'hui, l'avocate Marie Conton nous dit si travailler dans les transports et du temps de travail effectif. Écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr.
Soutenir les jeunes parents qui travaillent, c'est la mission de l'invitée que nous recevons dans le meeting. Elle a fondé une structure dédiée à ces sujets. Nous serons aussi avec une maman qui a pu être accompagnée. Elle va nous raconter comment ça l'a aidée à la fin de son congé maternité. Et puis en fin d'émission, on vous présente un pass qui permet aux salariés de prendre gratuitement rendez-vous avec des acupuncteurs, des ostéopathes, hypnothérapeutes et tous les autres professionnels de médecine douce et soins alternatifs. Merci d'être avec nous. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
Le gouvernement voulait un pacte ambitieux sur la vie au travail, mais après des mois de négociations, les syndicats ne sont pas parvenus à conclure un accord. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes le vice-président de l'Association Nationale des DRH, qu'on entend régulièrement sur notre antenne dans diverses émissions, notamment le midi avec Sofiane Aklouf et Sandra Gandoin dans Avec vous. Pas d'accord donc, dommage étant donné l'ampleur des sujets et des chantiers qu'il y a à mener quand même sur ce pacte de la vie au travail. On parle de formation, on parle d'organisation du temps de travail, on parle d'équilibre entre le temps personnel et le temps professionnel. Finalement, il n'est pas sorti grand-chose, quoi.
Ben, il y a beaucoup de sujets. Les partenaires sociaux avaient été saisis par le gouvernement précédent, mais ça ne change rien, d'un certain nombre de sujets. Ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente et donc le gouvernement reprend la main d'une certaine manière. Alors je pense que c'est une opportunité en fait, puisque ils ont promis, le Premier ministre a promis un projet de loi d'ici la fin de l'année, oui, qui fait suite aux déclarations qui avaient été faites l'an dernier sur la mise en place d'un pacte de la vie au travail, dont on ne savait pas bien ce qu'il y avait dedans.
Donc, ils vont se revoir à l'automne, hein, c'est
alors,
ça.
Ils se revoient à l'automne, sur l'assurance chômage, mais il y en a certains qui veulent, d'autres qui ne veulent pas. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui veulent, en l'occurrence. Mm-hmm. Ce qu'il faudrait éviter, si vous voulez, c'est que ce sujet de l'assurance chômage, qui a son importance, on pourra en reparler, devienne finalement le corpus central d'une transformation du travail qui va bien au-delà du simple sujet de l'assurance chômage, ouais, qui a son importance.
Parce qu'on a beaucoup d'autres points, on va les détailler ensemble. Prenons la formation d'abord. Où est-ce qu'on en est? De quoi on a besoin? Vers quoi est-ce que vous qui représentez aussi les DRH de France, vers quoi est-ce qu'il faudrait aller?
La formation, il y a eu une première réforme en 2018 qui a permis de détendre un peu les choses, mais les enjeux de compétences et de formation, ils sont absolument considérables. Oui. Sur votre antenne, comme ailleurs, on parle beaucoup de l'IA générative, on parle de transformation de métier, on parle des nouvelles compétences dont les gens ont besoin.
Et on voit que les RH sont encore pas prêts, hein.
Les RH seraient prêts, ils pourraient être prêts, en tout cas ils ont conscience du sujet, mais par contre ça signifie mettre des investissements considérables sur la formation, que ce soit la formation initiale, la formation continue. Il y a un débat en ce moment, vous savez que l'apprentissage et l'alternance étaient assez en retard en France. Finalement tout ça a été rattrapé, on est à près d'un million d'alternances, c'est vrai que...
On est allé trop loin même, hein, parce que en ce moment on veut revenir en arrière, ça coûte trop cher.
Oui, mais en même temps il faut quand même réfléchir, parce que le déploiement de cette alternance apprentissage dans des proportions considérables. On a rattrapé l'Allemagne, on l'a même dépassé par certains côtés.
C'est subventionné complètement.
Oui, mais c'est très important parce que c'est quand même la meilleure manière d'apprendre un métier. Oui. C'est aussi un outil d'inclusion extraordinaire, parce que vous avez des jeunes qui ont pu faire des études supérieures, parce que ça coûte très cher, ils n'auraient pas pu les faire sans ces dispositifs. Donc il faut faire attention, alors qu'il y ait une réforme, ça coûte extrêmement cher, à peu près 12 milliards d'euros par an, on peut le comprendre. Oui. Mais peut-être, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait orienter peut-être les financements uniquement sur les filières qui ont un avenir, et pas arroser comme ça tout le monde. Le gouvernement avait lancé le projet France 2030, qui travaille sur les compétences du futur. Tout ça, c'est des sujets importants. Donc la formation, elle doit être contenue, et notamment les deuxièmes parties de carrière pour les seniors, mais pas que, mais également pour préparer des transformations de métiers assez radicales.
L'organisation du travail aussi sur la table, en tout cas, ça va y revenir certainement à la fin de l'année. Gabriel Attal, qui lui a l'air d'être plutôt en faveur d'une semaine en 4 jours, c'est-à-dire on ne réduit pas le temps de travail, mais on réduit on travaille 4 jours au lieu de 5, mais en faisant le même nombre d'heures. Ces pistes-là, vous en êtes où dans la réflexion au niveau des DRH? RH, alors, des ressources humaines.
En fait, les pistes sur l'organisation du travail, elles ont connu une phase d'accélération à la suite de la crise Covid, puisqu'il y a une aspiration très forte des gens, vous l'avez rappelé, sur les équilibres de vie privée et vie professionnelle, sur l'organisation du temps de travail, sur l'autonomie, etc. Le télétravail, c'est une forme. On voit que c'est interrogé aujourd'hui. De l'autre, le projet du Premier ministre pour l'administration publique de mettre en place la semaine en 4 jours. C'est-à-dire, vous savez, il y a deux types, il y a la semaine en 4 jours et la semaine de 4 jours.
Oui,
de 4 jours, on réduit le temps de travail, en 4 jours, on ne réduit pas le temps de travail. Pourquoi pas ? Encore faut-il s'assurer que ça ne va pas générer de la surintensification du travail, que ça ne va pas mettre les gens un peu en flux tendu, donc ils vont perdre le temps de tous ces moments un peu informels dans l'entreprise qui ont leur importance. Bon, il faudra
faire des tests. Mais ça, c'est aux entreprises de
voilà.
De
le plus important dans cette histoire, ce qu'on dit nous, c'est que pourquoi pas. Après tout, ça fait partie des choses. Mais c'est pas adapté à toutes les entreprises, c'est pas adapté à tous les métiers, c'est pas adapté à tout. Et par conséquent, il faut surtout pas légiférer par le haut. Il faut peut-être le rendre possible,
mais laisser les entreprises pour les fonctionnaires
choisir. Il a raison.
Pour le
secteur privé, il faut surtout laisser les entreprises choisir. Mais imaginez que finalement, la fonction publique adopte la semaine en 4 jours. Vous changez un peu le rythme de vie de la société d'une certaine manière. Ce serait un peu curieux. Ensuite, d'avoir pendant 3 mois expliqué qu'il fallait travailler plus longtemps dans l'année, enfin dans la vie, et puis moins longtemps dans la semaine maintenant. Donc, vous voyez, donc la semaine en 4 jours, c'est. Mais pourquoi pas ? Il y a des expérimentations qui sont menées, qui ont l'air de bien se passer, mais il faut que ce soit cohérent avec le fonctionnement. On ne peut pas demander à la. Vous savez, je vais vous donner un dernier exemple. Entre 2 jours de télétravail et une semaine de 4 jours, quand est-ce que les gens se voient finalement ?
Plus beaucoup. Mais on voit bien dans les entreprises qu'on se
problème.
Voit, on se voit beaucoup,
on sait que c'est un problème.
Ouais. Alors ça dépend des collègues. Il y en a, on a envie de les voir. Ça peut nous arranger.
Moi, je parlais sur un plan collectif.
Rapidement, mais il y a aussi les secondes parties de carrière qui est un sujet très intéressant. Et pour l'instant, on a l'impression que c'est pas complètement maîtrisé.
Bah, nous, on a regretté que l'accord national interprofessionnel n'aboutisse pas, notamment sur l'aspect du CDI senior qu'on avait proposé. C'est dommage. Il y a une réalité en France, c'est qu'on est un mauvais élève de l'Europe. Mais qu'en revanche, on est un meilleur élève depuis quelque temps sur la capacité à garder les gens. Par contre, on est un mauvais élève pour les embaucher. Donc c'est pour ça qu'on avait proposé cette affaire-là. Il faut préparer la deuxième partie de carrière, de même qu'il y a des espèces de bilans de santé réguliers. Pourquoi ne pas faire la même chose pour les consultants ? Pour préparer. Parce que quand on se réveille, et je mets les DRH dedans, quelquefois on a été pas très bon sur l'affaire, quand on se réveille trop tard, quand la personne a 56, 57, bâtir la deuxième partie de carrière, c'est compliqué. Donc il faut vraiment s'assurer qu'on peut le faire en amont, faciliter l'accès aux formations. Vous savez que les taux de formation continue baisse au fur et à mesure que vous avancez en âge. C'est quand même absurde. Donc il y a un vrai travail à faire pour les DRH. Il y a sans doute des politiques publiques de soutien à cela, de manière à éviter qu'à 58-59, avec les transformations de métiers, technologiques, d'organisations qu'on connaît, des gens se retrouvent un petit peu en obsolescence de compétences et donc en obsolescence d'emploi.
Bon, au global, là où on aura eu un accord, alors sans le MEDEF, mais avec le reste des partenaires sociaux, c'est sur le CETU, le compte épargne-temps universel. Là, c'est en tout cas, ça avance de ce côté-là. Au global, qu'est-ce que vous en retenez, vous, Benoît Serre ? Et puis, à quoi vous appelez il faut plus d'ambition ?
Nous, on souhaiterait, idéalement, que dans le pacte de la vie au travail, il y ait plusieurs parties, sans doute le sujet de l'assurance chômage, sans faire n'importe quoi quand même. Je pense que durcir les conditions, c'est sans doute la meilleure des solutions, plutôt que raccourcir. La deuxième chose, des enjeux sur la formation et l'accès plus large et le lien plus fort entre les formations initiales et formations continues. Le troisième point, c'est effectivement une politique dédiée sur les seniors. On appelle depuis longtemps à un plan un senior, une solution. Et enfin, attention à pas trop toucher aux histoires d'apprentissage d'alternance, parce que ça serait dangereux. Et dernier point, prendre en compte le fait qu'il y a une interrogation sur l'organisation du travail, et donc libérer un peu les entreprises. Et le président de la République a une intention de simplification. Donc il faudra que ce pacte de la vie au travail intègre cette intention.
Vous êtes toujours DRH ?
Oui, tout va bien.
Vous ne couperez pas à l'exercice de cette séquence, Benoît Serre. La boîte du DRH, Patrice vous amène tout de suite, une boîte dans laquelle il faut piocher un petit papier. Zut, maintenant vous allez voir, ça va bien se passer.
Merci.
Un papier, une phrase à compléter. Je vous
laisse
vous la lire.
Ma boîte des augmentations, c'est pas question négociable collectif. C'est collectif.
Les augmentations ?
Bien sûr.
Collectif.
C'est organisé.
Ouais, collectif.
Négociable toujours par les individus, mais ça prend en compte les considérations de l'individu lui-même et de l'ensemble de la collectif, parce que le partage de la valeur est très important.
Vous avez répondu tellement vite que vous avez le droit de prendre un deuxième papier.
Oh la vache.
Il nous reste 10
secondes. Deuxième papier, alors pardon. Qu'est-ce que dans ma boîte, je décrète un jour férié, ce serait le jour 2. Ça, c'est une question très difficile parce qu'il y en a déjà beaucoup.
Ouais.
Et on le voit en ce moment, au mois de mai, où il se cumule.
Et s'il y avait un jour à célébrer, peut-être. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire en retournant dans votre entreprise, mais comme
un
ça.
Un jour à célébrer ?
Ouais.
Voilà, c'est difficile, peut-être, le jour où la personne a été embauchée.
Ok. Parfait. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée.
C'est une manière de reconnaître l'individu.
Mais bien sûr. Merci Benoît.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous et d'avoir joué le jeu, vice-président de l'Association nationale des DRH. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joint tout de suite Marie Contant, avocate associée BG2V, avocat, pour répondre à cette question. Je suis régulièrement amenée à travailler dans les transports en me rendant au travail ou à des rendez-vous. Cela est-il considéré comme du temps de travail effectif ?
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré comme tel. En revanche, si la personne est tenue d'accomplir des tâches, ne peut pas vaquer à ses occupations et doit se conformer aux directives de son employeur, ça devient du temps de travail effectif. Et là, récemment, la Cour de cassation a rendu deux arrêts. Un premier où c'était un commercial au volant de sa voiture qui, avec le kit main libre, devait prendre des rendez-vous, planifier ses interventions à venir, répondre aux sollicitations des salariés de son équipe. Là, c'était du temps de travail effectif. En revanche, celui qui est simplement susceptible de devoir répondre au téléphone pendant ses temps de trajet, là, il a été considéré que c'était pas du temps de travail effectif. Donc, c'est du cas par cas, en réalité.
Merci Marie Contant, avocate associée BG2V Avocat. Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats en droit du travail sur happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Retourner au travail après une naissance, un heureux événement. Oui, heureux événement, mais c'est pas toujours évident de retourner dans les bureaux, surtout quand on n'est pas spécialement accompagné. Vous êtes peut-être, vous aussi qui nous regardez, qui nous écoutez en radio, en podcast, en replay, retrouvé dans cette situation. Et c'est donc pour remédier à ça que notre invité a monté une structure dédiée à l'accompagnement des actifs dans leur parentalité. Bonjour Émilie Rozan.
Bonjour.
Merci d'être sur BFM Business dans Happy Boulot. Vous êtes directrice générale de NIDE, N-I-D-E, incubateur de parentalité. En entreprise, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Face à vous, on vous a demandé de choisir qui vous vouliez ramener. Eh bien, c'est Hélène Bertolone. Bienvenue Hélène.
Merci.
Vous êtes là, vous êtes responsable impact de Morning, ça c'est le côté professionnel, mais qui crée des espaces de travail et de coworking. Mais vous avez aussi été cliente d'Emilie et donc de NIDE, puisque vous êtes jeune maman, vous allez nous raconter comment ça vous a aidé. Emilie, d'abord, racontez-nous là rapidement, qu'on comprenne bien, qu'on s'imagine bien ce que c'est que NIDE.
Alors NIDE, c'est une entreprise qui propose d'accompagner les entreprises dans la gestion des impacts de la parentalité sur la vie perso et la vie pro.
Donc en fait, c'est du B2B finalement, on ne passe pas directement par les parents.
Exactement, c'est du B2B, donc on propose une solution clé en main aux entreprises pour leur permettre de prendre soin de leurs collaborateurs futurs et jeunes parents dans cette transition clé, notamment dans les trois transitions clés du devenir parent, via un parcours d'accompagnement avant, pendant et après le retour de pause parentale.
Donc vous êtes installé à Bordeaux. Exactement. Là-bas que sont les bureaux. Malgré tout, vous êtes présent partout parce qu'on n'a pas besoin de se rendre chez vous pour utiliser la solution. Tout ça, c'est numérique en fait.
Exactement. Notre accompagnement. Donc là, je vous ai parlé de l'accompagnement collaborateur. On a aussi un accompagnement à destination des RH, responsables QVT et des managers dans dans le pôle des offres qu'on propose, puisqu'on accompagne les entreprises aussi via des missions de conseil qu'on fait évidemment à distance pour aider les RH, directeurs inclusion dans la définition d'une roadmap parentalité, mais on forme aussi les managers via des ateliers de sensibilisation pour leur donner un peu des clés, des outils, des bons réflexes pour accompagner au mieux les problématiques de parentalité de leurs équipes. Et tout ça, que ce soit le parcours collaborateur ou l'accompagnement de l'entreprise, se passe effectivement en distance via des classes virtuelles, mais on peut aussi évidemment se déplacer, il n'y a pas de problème quoi.
Hélène Bertolone, vous avez bénéficié de ces services. Comment ça s'est passé? C'est l'entreprise qui vous a dit « Nous, on propose cette solution » et ça vous a intéressé?
Oui, bien sûr. En fait, donc au moment de ma grossesse, à peu près au sixième mois, nos DRH nous ont proposé donc de participer au programme NIDE en nous expliquant que c'était donc un programme en six sessions qui allait aborder les thématiques de la parentalité, donc la préparation à la parentalité et surtout comment revenir sereinement au travail après. Après le congé maternité.
Et qui comment est vous aide alors? Qui vous aide? Ce sont des professionnels de santé? Ce sont des personnes qui sont déjà parents? avec qui vous êtes en contact à ce moment-là?
Alors nous, on est en contact avec Mathilde et Émilie qui sont les fondatrices. Ouais. Ensuite, on est en contact avec la communauté de jeunes mamans qui va du coup se préparer à sa parentalité. Et ensuite, on a accès.
Parce qu'il y a des promotions, hein. J'ai vu sur le site, il y a la promotion septembre, octobre.
Les...
En fonction de l'avancée de la grossesse.
Exactement, les parents, que ce soit les mères, parce qu'on accompagne aussi les coparents, sont regroupés par terme d'arrivée de l'enfant.
Donc ça permet d'avancer tout en même.
Exactement, parce qu'en fait, on a créé non pas un contenu qu'on peut snacker un peu partout, c'est un parcours vraiment qui a un début et une fin, avec un début un mois avant le début de la pause parentale, congé mat, qui va jusqu'à un mois après le retour au travail. Donc c'est pour ça qu'on rassemble les collaborateurs de différentes entreprises par terme de grossesse qui coïncide avec un départ concomitant.
Parce que ça s'adresse pas qu'aux femmes en réalité, hein, non, ça s'adresse aussi aux pères, mais en proportion. Personnellement, c'est quand même quoi? Plus les femmes qui...
On est quand même sur du 80-20, je dirais.
Ah oui, oui. Parce qu'on a plus le réflexe, peut-être, et l'envie d'être accompagné quand on est une femme, qu'on sent encore
moins. Je pense pas que ça soit tant une envie, mais je pense que la problématique aujourd'hui, elle est surtout portée par les femmes qui partent avec un congé maternité qui est plus long. Donc les problématiques relatives au travail, elles sont plus importantes concernant les femmes. Mais ça change, et on accompagne de plus en plus de coparents.
C'est bien.
Voilà, et on est très heureux de ça.
Ouais. Hélène, pardon, je vous ai interrompu. Donc il y a cette promotion. À partir de là, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, on se rencontre pendant ce programme, pendant 6 semaines, on a donc des temps de visio, des temps de partage, et donc on a un contenu très pratico-pratique en fait sur ce qui nous attend. Donc pour vous citer quelques exemples de modules, il y a anticiper l'anticipable, donc ça donne des tips vraiment très concrets de qu'est-ce qui est vraiment utile à l'accueil de mon bébé et qu'est-ce qui est finalement futile quand on est submergé d'informations. En fait, c'est un vrai condensé des bonnes infos qu'il faut avoir, des infos clés. Et surtout, un module hyper intéressant, c'est le retour au travail.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quand même quelque chose qu'on
redoute. Parce que là, on est quand même assez peu accompagné. Aujourd'hui, justement, il y a encore pas vraiment ces solutions-là. Quand on revient, c'est un peu comme si on était parti presque en vacances ou pris un congé sabbatique, quoi.
Effectivement, je pense que le dîner avec Emilie, c'est un peu le problème.
C'est vrai qu'avec Émilie, je lui faisais ce feedback, en fait, dans la préparation. En fait, nous, en tant que femmes, quand on est enceinte, on a une préparation à l'accouchement. On n'a pas vraiment de préparation au retour au travail. Voilà.
Et là, vous l'avez eu. Alors, comment ça s'est concrétisé?
Et ben ça s'est concrétisé donc avec mon entreprise qui nous a offert ce programme et donc c'est ces informations précieuses et un coaching donc dédié avec les bonnes questions à se poser. Et en fait, NID invite vraiment à s'interroger, à prendre ce temps de la réflexion sur qu'est-ce que j'ai envie de retrouver au travail.
Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous parler un petit peu plus de vous, ce que vous voulez bien nous raconter, bien sûr, mais quelles étaient vos inquiétudes et comment est-ce que vous avez pu être rassurée sur tel ou tel point, très concrètement ?
Très concrètement, moi j'avais la crainte de ne pas retrouver mon poste tel que je l'avais.
Ah mais ça c'est très majoritaire. On a souvent peur
de
revenir.
C'est la peur numéro une quand on part de se dire qu'on.
On a été remplacé.
Ouais, le ghosting, comme on l'appelle. Ouais, ouais.
Alors moi j'avais pas peur d'être remplacé parce qu'en l'occurrence c'est pas du tout les pratiques.
Que l'émission est changée.
Qui se font dans mon entreprise. Ouais. Comment?
Non, ça ne se fait pas chez vous. Mais peut-être que le poste est évolué sans qu'on nous l'ait dit.
Qu'il y ait des projets en fait qui évoluaient sans moi. Enfin voilà, ça, on a toujours un peu peur de rater le train. Et là, en l'occurrence, ça m'a permis de pouvoir poser les bases et préparer en fait mon entretien RH à mon retour de congé maternité.
Vous travaillez, Émilie Rozan, avec des professionnels, des médecins, des psychologues. Ce sont eux aussi qui sont en contact avec vos clients, vos clientes?
Alors, ils sont en contact avec nous, qui sommes un peu dans le cerveau des opérations. Donc, on a un comité d'environ 25 professionnels pluridisciplinaires allant du gynéco-obstétrique au psychologue spécialisé dans les psychopathologies du travail, en passant par le coach professionnel ou le consultant en sommeil.
Mais ces personnes-là parlent directement avec la salariée.
Alors, ces personnes-là, en gros, on a travaillé avec eux de deux manières. Dans toute l'élaboration des contenus, c'est avec eux qu'on a créé les contenus, parce puisqu'on rassemble toute leur expertise au sein d'un seul et même endroit. Et c'est ce qu'on délivre dans les différents contenus. Et ensuite, les collaborateurs ont la possibilité d'avoir 5 consultations de 30 minutes avec l'un de ces professionnels pour aller plus loin dans leur problématique individuelle.
L'employeur n'est pas au courant de ce qui se dit.
Bien sûr que non.
Donc on garde la confidentialité.
Évidemment.
C'est important de le dire aussi. On est déjà au bout. Merci beaucoup, Émilie Rozan, directrice générale de NID, pour ce témoignage et cet éclairage sur aussi ces solutions. C'est encore rare, on le sait. On en parle aussi dans cette émission régulièrement. Mais voilà, il y a des choses qui avancent et vous en faites partie. Merci d'avoir été avec nous. Hélène Bertolone, aussi responsable impact de Morning. Merci d'avoir été avec nous. On file dans le labo d'Happy Boulot.
Happy Boulot, le lab.
Jeanne est de retour en 4 minutes. Jeanne, aujourd'hui avec notre invité, l'inventeur d'un pass bien-être. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler.
Exactement. Nous sommes avec Stanislas Regnault.
Bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
Bonjour à vous.
Vous êtes PDG de Capsan et vous venez de nous parler aujourd'hui de la solution VitaliPass que vous avez inventée. C'est une carte cadeau pour les salariés pour leur permettre d'aller consulter des thérapeutes de médecine douce, coach de vie, sophrologue, kinésithérapeute. Comment fonctionne la plateforme exactement ?
Alors, la plateforme est constituée d'un certain nombre de praticiens qui sont référencés pour leur sérieux et pour leur réputation dans un certain nombre de pratiques qui aujourd'hui sont des pratiques non réglementées. Donc il faut effectivement les passer au crible pour pouvoir offrir aux salariés des entreprises qui ont décidé d'octroyer cet avantage en nature à leur personnel la possibilité de pouvoir accéder à des soins de confort ou des soins de bien-être ou de santé-bien-être.
En plus, ça permet d'avoir pour le salarié du coup quelqu'un de sérieux parce qu'on ne sait pas vraiment à qui on a affaire quand on fait appel à de la médecine douce, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a eu même un certain nombre de contrôles qui ont été faits par la Direction Générale des Fraudes et de la Concurrence.
On se souvient de l'affaire Doctolib aussi, où un certain nombre de professionnels ont été déréférencés. Le constat de départ que vous faites aussi donc, chez Capsan avec cette solution du VitaliPass, c'est qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup d'arrêts de travail pour maladie. On parle beaucoup dans cette émission de santé mentale. 4 Français sur 10 consultent pour leur santé mentale. C'est aussi une solution pour répondre à ces problème-là.
Alors, c'est un des aspects auxquels nous répondons, puisque nous avons sur notre plateforme, en dehors des sophrologues et des hypnothérapeutes ou des gens qui font du yoga, nous avons également des psychologues qui peuvent répondre aux demandes des salariés. L'intérêt pour les salariés par le VitaliPass, c'est que ce pass est entièrement anonyme. Et donc, ils peuvent consulter en libre choix leurs praticiens qui sont sur leur plateforme sans devoir en faire référence à qui que ce soit dans l'entreprise.
Mais c'est l'employeur qui va décider à quel salarié il va donner le pass ou il va donner à tout le monde ?
Alors, logiquement, il le donne à tout le monde. On a eu quelques entreprises qui nous ont dit c'est pour tout le monde et c'est pour personne, ne serait-ce que pour des raisons de non-discrimination, non-favoritisme.
Comment on convainc les entreprises à travailler, à faire appel à vous ? Parce que aujourd'hui, les entreprises donnent des mutuelles déjà, il y a la sécurité sociale, donc pour la santé du salarié, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place.
Et c'est vrai que les mutuelles aussi remboursent désormais l'ostéopathie, des choses comme ça. Ouais.
Donc comment vous les convainquez du coup les entreprises de travailler avec vous ?
Nous avons déjà eu effectivement cette réflexion sur les mutuelles. Il faut savoir que les mutuelles remboursent de façon limitative, ils ne peuvent pas tout rembourser. Et surtout, les mutuelles souvent remboursent sur des praticiens qui ne sont pas référencés dans leur site. Donc, ce que nous apportons en plus, notre plus-value, si vous voulez, c'est la crédibilité du praticien qui est consulté. Un ostéopathe sera remboursé par une mutuelle, mais est-ce que l'ostéopathe en question sera le bon ostéopathe ou pas ?
Donc, vous proposez la liste, 300 professionnels aujourd'hui avec lesquels vous travaillez ?
Aujourd'hui, nous avons 300 professionnels inscrits sur notre plateforme et nous limitons le nombre de professionnels sur la plateforme et nous l'adaptons en fonction de la demande de l'entreprise. C'est-à-dire que pour les praticiens, nous n'allons pas leur promettre d'avoir des consultations si nous n'avons pas les entreprises en face. Donc pour un exemple concret, une entreprise de 500 salariés située à Strasbourg nous demande des VitaliPass. On leur demande 3 semaines à peu près pour trouver tous les praticiens qui pourraient répondre.
Ah oui, donc ils sont à Strasbourg ou autour, quoi.
Ou autour.
Voilà. Et comment, juste dernière question, mais comment est-ce que sont rémunérés les professionnels ? C'est vous qui les payez en amont ou c'est fois qu'il y a eu la consultation ?
Le VitaliPass a une valeur faciale, comme à chaque cadeau ou à chaque restaurant. L'entreprise nous a acheter ces Vitali Pass et avec ces montants, nous réglons les praticiens sur les honoraires qui est de consultation.
Très bien. C'est tout nouveau, hein? Combien d'entreprises sont clientes aujourd'hui et combien sont intéressées?
Alors, il faut savoir que la société existe depuis 6 mois.
Ouais. Donc c'est vraiment.
Donc nous avons à peu près 35 sociétés intéressées à ce jour.
Ouais.
Surtout pour des décisions qui prendront forme en fin d'année, probablement à la rentrée de septembre, mais qui ont une écoute tout à fait attentive sur ce type de produit qui, comme vous venez de le dire, n'existe pas.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution, Stanislas Regnault, PDG de Capson, inventeur donc de la solution Vitali Pass. Merci Jeanne, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, vous retrouvez cette émission en replay, en podcast sur vos plateformes préférées. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. On se retrouve nous le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Happy Boulot. Bien sûr, d'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.